L'essentiel, la suite, on va plus loin maintenant avec Richard Verli, correspondant à Paris du quotidien suisse Blick. Bonjour Richard.
Bonsoir.
Et Bruno Daroux, chroniqueur international ici même à France 24. Bonjour Bruno.
Bonjour Raphaël.
Au sommaire, l'armée russe à l'offensive sur Kharkiv, la deuxième ville d'Ukraine, pas menacée d'après le secrétaire du Conseil ukrainien de sécurité. Mais 6000 personnes ont tout de même dû être évacuées dans une trentaine de villages. L'arrivée d'un nouveau ministre de la Défense côté russe montre que Moscou se prépare à une guerre longue d'après Kiev. Et puis la Catalogne, elle s'éloigne des indépendantistes, privée de majorité à l'issue de l'élection régionale, car les Puigdemont ne renoncent pas pour autant à gouverner le futur exécutif régional. C'est tout de suite, on va plus loin. Jusqu'où ira l'armée russe dans sa nouvelle offensive déclenchée au début du week-end contre Kharkiv? Si la deuxième ville d'Ukraine pour l'heure n'est pas menacée, selon des informations ukrainiennes rapportées par l'AFP, une trentaine de villages sont tout de même visés par des tirs de l'artillerie russe. Emmanuel Chasse sur place pour France 24, vous nous confirmez, hein, près de 6000 personnes ont dû être évacuées.
Absolument, Raphaël. 6000 personnes en l'espace de quelques jours seulement. J'ai pu cet après-midi voir justement plusieurs centaines de ces déplacés internes qui ont dû être évacués. Il s'agit en premier lieu de personnes âgées qui n'avaient pas pu faire le déplacement seules, qui étaient bloquées également, pris entre deux feux, entre l'armée russe, les bombardements russes et l'armée ukrainienne en position de défense. Donc une nouvelle offensive russe qui s'attaque à ces villages. Ce faisant, on provoque une nouvelle fois ce grand exode qu'on avait déjà connu en 2022 ici. Hein. Souvent, les gens à qui j'ai parlé cet après-midi me disaient qu'ils avaient déjà dû fuir leur maison une première fois à l'avancée des Russes en 2022. Donc, c'est une triste répétition pour eux ce soir. Et ça continue. Hein. Ces évacuations, elles ont lieu 24 heures sur 24. Elles sont effectuées par les pompiers, par la police, lorsque c'est possible également par des organisations non gouvernementales. Il y aurait encore environ 300 personnes dans l'un des villages les plus affectés par ces combats, Vovchansk, donc encore 300 personnes parmi celles qui ont pu réchapper du déluge de bombes qui leur tombe dessus. J'ai pu parler à une personne en particulier, Serhiy, 64 ans, pardon, qui me disait avoir tout vu tomber dans son jardin, une dizaine de bombes de tout genre, des bombes à sous-munitions, des tirs d'artillerie dans son jardin. Il a dit que la situation n'était tout simplement plus tenable. Il est parti à la première occasion et en parlant, il était encore au téléphone avec des gens toujours bloqués à Vovchansk. Donc une situation dramatique pour les civils qui se trouvent toujours pris sous ce déluge de bombes russes.
Le secrétaire du Conseil de sécurité nationale et de défense de l'Ukraine a l'indiqué, pas moins de 30 000 soldats russes sont engagés dans cette nouvelle offensive.
Absolument. Alors c'est vrai que c'est un nombre impressionnant. 5 brigades, on pense à 5 brigades notamment qui seraient sur ce front côté russe pour tenter d'avancer sur ce territoire, d'obtenir des gains territoriaux sur toute cette zone grise le long de la frontière russe. Alors c'est beaucoup, ça permet des avancées tactiques sur ces zones de campagne. En revanche, ça ne permettrait pas, ce ne sera pas un nombre suffisant en fait pour permettre la prise de Kharkiv, où je me trouve par exemple. Kharkiv, c'est la seconde plus grande ville d'Ukraine, 1,3 million d'habitants, une ville à la superficie très grande et une ville qui avait déjà résisté à une première tentative d'encerclement, une première tentative d'invasion par les Russes dès février 2022. Kharkiv s'était défendue. Les citoyens ici sont inquiets, mais ils ne sont pas inquiets pour une invasion terrestre. Ils ont beaucoup plus peur des bombes qui leur tombent déjà dessus. La cadence de ces bombes s'est accélérée ces derniers mois, ces dernières semaines, et ils ont d'autant plus peur des avancées russes à quelques dizaines de kilomètres de là que ça pourrait aussi signifier que les canons russes pourraient se rapprocher de Kharkiv et tenter de détruire cette ville encore plus, puisque l'Ukraine n'a toujours pas reçu tous les moyens nécessaires pour assurer à 100% sa défense antiaérienne.
Merci Emmanuel Chasse en direct de Kharkiv pour France 24. Richard Verli, on voit avec les moyens déployés par la Russie, hein, 30 à 50 000 hommes mobilisés, l'illustration que Moscou a la capacité d'accélérer et de multiplier les fronts.
Oui, alors on s'attendait à une percée, on l'a beaucoup dit ici, et bien là voilà, la tentative en tout cas de percée russe. Il subsistait encore ces derniers jours une interrogation sur est-ce une diversion et est-ce qu'il y aurait un autre mouvement plus vers le sud. Quand on parle de 30 000 hommes, ça semble vouloir dire que c'est quand même là que l'armée de Poutine a décidé de mettre le paquet. Alors, les premières défenses ukrainiennes ont craqué, ou en tout cas elles sont très mal menées. Le commandant militaire de la région de Kharkiv a été remplacé. En général, on remplace les commandants qui perdent, pas ceux qui gagnent. Donc ça veut dire que la situation est difficile. Maintenant, est-ce que la ville est hors d'atteinte? A priori, oui. Mais hors d'atteinte, ça veut dire quoi? Vous avez bien vu la tactique. C'est des barrages d'artillerie incessants et de plus en plus importants. Si ces barrages d'artillerie se rapprochaient de Kharkiv, certes, la ville, elle serait toujours tenue par les Ukrainiens, mais les conditions de vie y deviendraient impossibles. Donc en fait, l'objectif est tout de même la pression sur Kharkiv.
Alors, ce qu'indique la chaîne Telegram Rybar, qui est proche de l'armée russe, hein, c'est qu'après 4 jours d'offensive, toujours aucune percée à grande échelle des défenses ennemies bien sûr pour la Russie, n'a été enregistrée. Et l'illustration aussi, peut-être, Bruno Darou, du risque d'enlisement et de dispersion des moyens russes face à une armée ukrainienne qui, traditionnellement, hein, dispose de l'avantage, bien sûr, dès lors, enfin, en tout cas, l'avantage à défendre dès lors qu'elle est face à une armée d'invasion.
Oui, alors c'est toujours plus facile en principe d'être effectivement dans la position défensive, même si dans le cas présent, on sait que le problème de l'Ukraine, c'est qu'elle manque de matériel et qu'elle a des problèmes à organiser la rotation des effectifs. Donc oui, elle est sur la défensive, mais dans une position extrêmement difficile. Est-ce qu'il y a dispersion des moyens russes? C'est vrai qu'il y a une tentative de percer aussi sur le sud, sur un front assez large. Et donc maintenant, il y a évidemment le nord-est, et donc maintenant cette offensive par le nord sur la ville de Kharkiv. Peut-être que les Russes se sentent suffisamment forts pour l'instant comparé à l'état de l'armée ukrainienne pour lancer ces différents fronts. Alors, sachant que pour Kharkiv, effectivement, c'est un peu compliqué pour le moment de savoir ce que veulent exactement les Russes, parce que tous les experts militaires s'accordent à dire qu'il serait quasiment impossible au sens vraiment militaire, territorial pour les Russes, de s'emparer de cette ville de plus d'un million d'habitants. La tactique peut être effectivement, comme ça a été dit, de d'abord rapprocher les canons en quelque sorte de la ville pour vraiment la détruire au maximum, détruire aussi bien sûr toutes les stations électriques, etc. Apparemment c'est déjà le cas, ce qui fait que la vie deviendrait impossible pour les habitants de Kharkiv et que donc il y aurait un énorme exode hors de la ville, et là ils attendraient patiemment en quelque sorte que la ville tombe comme un fruit mûr, parce que il faut pas oublier que pour les Russes, la prise de Kharkiv, la deuxième ville du pays, viendrait un peu effacer l'humiliation de la non-prise de Kiev il y a 2 ans, et d'ailleurs à l'époque de la non-prise de Kharkiv aussi, puisque les Russes y étaient entrés dans l'agglomération de Kharkiv, mais on avait été délogés par les Ukrainiens. Ils avaient pris ensuite la zone au nord, justement, de la ville de Kharkiv pendant quelques mois, jusqu'au mois de septembre 2022, au moment de la contre-offensive ukrainienne victorieuse. Voilà, on en est là pour le moment. On est sans doute dans un moment où les Russes se disent que ils vont prendre leur temps, ils vont affaiblir Kharkiv. Et pour l'armée ukrainienne, le problème, c'est que on ne sait pas exactement dans combien de temps les fameux armements matériels et il y a aussi ce problème d'effectifs, mais armements et matériels des Occidentaux et notamment des Américains vont arriver. Certains experts parlent de 2 mois, 2 mois et demi, et il faut tenir pendant 2 mois, 2 mois et demi. C'est long.
C'est une course contre la montre, on emploie souvent l'expression, mais là on voit bien que la Russie essaie de pousser son avantage tant qu'elle le peut. Un projet de document dévoilé par le journal allemand Welt am Sonntag durant le week-end montrait que l'Union européenne envisageait un traité à long terme à l'Ukraine qui lui garantirait des fournitures d'armes, de la formation militaire. C'est un soutien qui est de nature, d'après vous, à décourager Moscou. Richard, au contraire, trop timide et trop lent pour vraiment inverser le cours de la guerre alors qu'il est.
Le paradoxe, c'est que c'est une course contre la montre, mais dans un calendrier qu'on connaissait encore une fois et dans un calendrier dont les Occidentaux sont largement responsables. C'est le retard pris dans les des approvisionnements en armes à l'Ukraine qui a créé cette fenêtre et qui a ouvert la possibilité pour l'armée russe de tenter cette percée. Ça, on le savait. Mmh. Alors après, par rapport à ce que vous dites, moi, je crois effectivement, et c'est une des thèses qui flotte dans l'air, qu'il faut aussi peut-être interpréter cette poussée russe comme un moyen de pression très fort en vue d'un futur règlement négocié.
C'est effectivement ce que vous écriviez dans Beik.
Le calendrier, encore une fois, il faut bien le regarder. Rappelons-nous qu'il y a un sommet du G7 à la mi-juin, juste avant, Vladimir Poutine va se rendre en Chine. Vous aurez remarqué que la percée ou la tentative de percée, elle n'a pas eu lieu pendant que Xi Jinping était en Europe, mais juste au moment où il est reparti de Hongrie. Donc il va y avoir là une fenêtre et il y a cette conférence de paix organisée par la Suisse les 15 et 16 juin à laquelle la Russie ne participera sans doute pas, mais la Chine pourrait y être. Bref, a priori, autant la période actuelle était celle propice au combat et au combat très dur, bien évidemment si la Russie prend un avantage conséquent, elle en profitera, autant la période à partir du 1er juin redeviendra plutôt une période, disons, diplomatico-politique.
Cette avancée russe, en tout cas, intervient au moment où Vladimir Poutine se sépare de son ministre de la Défense, l'emblématique Sergueï Choïgou, qu'on croyait indéboulonnable après 12 ans en poste. Le voilà désormais secrétaire du Conseil de sécurité, remplacé par un économiste de formation jusqu'ici méconnu du grand public. Son nom, Andreï Belousov. Noémie Roche nous dresse son portrait.
Il n'a aucune formation militaire, mais se retrouve aujourd'hui propulsé ministre russe de la Défense. Pour le Kremlin, Andreï Belousov est la bonne personne pour remplacer Sergueï Choïgou et poursuivre l'offensive russe en Ukraine.
Aujourd'hui, sur le champ de bataille, celui qui l'emporte, c'est celui qui est le plus ouvert à l'innovation. Et donc, il est naturel qu'au stade actuel, le président ait décidé que le ministère de la Défense devrait être dirigé par un civil. D'autant plus qu'il ne s'agit pas seulement d'un civil, mais d'un homme qui a dirigé le ministère du développement économique de la Russie, qui a longtemps été l'assistant du président pour les questions économiques.
Un proche du président donc, récompensé pour son engagement. Économiste de formation, Andreï Belousov a entamé sa carrière politique en 2000 comme conseiller du Premier ministre russe. Entre 2006 et 2012, il a occupé plusieurs fonctions avant de devenir conseiller de Vladimir Poutine de 2013 à 2020. Proche du président, il partage avec lui la vision d'un État et d'une identité russe forte. Pendant la pandémie de Covid-19, il avait même remplacé le Premier ministre malade, un signe de confiance de la part du Kremlin. Dans la guerre en Ukraine, Andreï Belousov a déjà joué un rôle majeur dans la supervision des drones russes.
Bruno, voyez-vous comme Richard Verli dans cette offensive sur Kharkiv les moyens pour la Russie de se créer les conditions d'une négociation peut-être plus avantageuse demain, ou au contraire, comme semblent penser les Occidentaux, dans ce changement aussi de titulaire au poste de ministère de la Défense, le signe que la Russie est partie pour une guerre longue?
Peut-être tout simplement que le Kremlin n'écarte aucun scénario. Donc il y a une tentative de percée, si ça marche, on pousse l'avantage. Il va y avoir toutes ces réunions, effectivement, diplomatiques évoquées par Richard. Mais, alors, négocier, oui, mais négocier comment, avec qui, ça reste quand même extrêmement compliqué.
Avec l'Ukraine à genoux, c'est ça l'objectif.
Avec l'Ukraine à genoux, mais l'Ukraine à genoux n'a cessé de répéter que, ce qu'elle recherchait, c'était l'intégrité territoriale. Donc, oui. Mais... pourquoi pas? Et puis, effectivement, ça peut être aussi une occasion pour signifier que la Russie s'inscrit dans une guerre longue. Et c'est pour ça qu'on nomme à la tête du ministère de la Défense un économiste qui a déjà fait ses preuves en plusieurs circonstances, c'était évoqué, y compris d'ailleurs concernant l'Ukraine, effectivement, avec les drones. Visiblement, sa feuille de route, c'est d'abord, de remettre de l'ordre au sein même du ministère. Il a déjà dit qu'il y avait trop de bureaucratie, il y a des cas de corruption, donc bon, ça, ce sera une de ses feuilles de route. Et l'autre feuille de route, c'est de continuer à transformer le système économique russe en une économie de guerre. C'est déjà bien entamé, il faut quand même rappeler que actuellement, les dépenses militaires russes représentent 7% du PIB du pays, donc c'est absolument considérable. Nous, on n'est même pas à 2%, les fameux 2% réclamés pour chaque membre de l'OTAN. La Russie, c'est déjà 7%. mais visiblement, on va poursuivre dans cette voie. Et puis, il est à noter que le chef d'état-major, lui, Valéry Gerassimov, reste en poste pour continuer à diriger les opérations sur le terrain. Ce ne sera pas la tâche première du nouveau ministre.
Un élément peut-être sur Shoigu, oui. On l'a oublié, mais vous vous souvenez de ce que l'ex-chef de la milice Wagner, tué dans ce fameux accident d'avion, disait de Shoigu. Il le traitait littéralement de salaud parce qu'il avait abandonné ses milices sur le terrain, etc. Donc on sait que Vladimir Poutine a une patience d'or, si je puis dire. Peut-être est-il venu aussi le moment de régler certains comptes, parce que peut-être que certaines des accusations à l'époque proférées contre Shoigu n'étaient pas complètement fausses. Peut-être que Shoigu avait fait des erreurs et donc Poutine a attendu le bon moment pour en tirer les conséquences.
Et pourtant, c'est un très proche de Vladimir Poutine. Après, ce qu'on ne sait pas trop pour le moment, c'est si ça... Parce qu'il a été limogé du ministère de la Défense.
Chevauché ensemble dans les steppes de l'Oural.
Ils chevauchaient ensemble, absolument, dans les steppes de l'Oural. Alors, ce qu'on ne sait pas trop, c'est si ce limogeage est vraiment une disgrâce ou est-ce que sa nomination à la tête du Conseil national de sécurité, où il remplace un autre homme important dans le système, Nikolai Patrouchev, veut dire quand même qu'il n'est pas disgracié. Vladimir Poutine estime que le moment est venu de le changer pour toutes les raisons qu'on a évoquées, mais on ne le met pas dans l'ombre quand même.
Belousov, comme Shoigu avant lui, dont on l'a suffisamment dit, n'est pas un militaire. Le signe que Vladimir Poutine se méfie justement de son armée.
Ça, je ne sais pas. Et je crois que personne n'est capable de le dire. Vous savez, l'opacité du système russe, d'abord, elle a toujours été là, à l'époque des tsars, ensuite sous l'URSS, et maintenant. Donc, est-ce qu'il se méfie de son armée? Ce qu'on constate, c'est que Gerasimov est toujours là. Il a purgé des éléments de l'armée. Vous savez, le fameux général Sourovikine, général Armageddon. On ne sait même pas exactement ce qu'il fait maintenant et s'il a la totale liberté de ses mouvements. Donc, on a quand même l'impression que l'armée, elle est bien contrôlée. C'est plutôt la supervision, effectivement, comme le disait Bruno, du dispositif de l'économie de guerre, avec peut-être aussi des affaires d'argent, parce que qui produit des armes, ça rapporte, et peut-être que l'un ou l'autre avait tendance à mettre un petit peu trop la main dans le panier.
On le décrit comme incorruptible, Belousov. C'est peut-être aussi une des raisons de ça.
On se méfie des gens qu'on décrit comme incorruptibles. Mais non, et puis bon, il faut rappeler aussi que dans nos pays, par exemple, les ministres de la Défense, très souvent, ne sont pas des militaires.
De carrière.
On peut rappeler la formule de Clémenceau, la guerre est une chose trop sérieuse pour être confiée à des militaires. Bon, peut-être que Vladimir Poutine a retenu la leçon du père la victoire.
L'argument économique et technologique avancé par Dimitri Peskov doit-il nous faire réfléchir, Bruno, à nous occidentaux et européens, sur le profilage, entre guillemets, de nos propres armées, de nos propres économies? Faut-il, à défaut de s'inspirer de la Russie, en tout cas, voir comme une alerte le signal donné aujourd'hui par les Russes?
Écoutez, on peut dire quand même que le signal, il a été en partie reçu par plusieurs pays européens, dont la France, puisque le président Macron a annoncé un effort très important en matière de défense. Après, l'Allemagne, qui a effectué un véritable tournant à 360 degrés en matière de politique de défense. Après, on est encore loin de ce que fait la Russie. Puis, arriver à 7% du PIB, parce que la différence, c'est que nous sommes des démocraties. Oui. Là, nous sommes dans un État autoritaire, voire dictatorial. 7% du PIB, ça veut dire qu'il y a d'autres secteurs de l'économie sacrifiés, et que pour une partie de la population, ça doit avoir un coût bien visible. Mais c'est moins un problème dans un pays comme la Russie que dans nos économies.
Oui, mécontentement social, effectivement, a moins droit de cité, on l'a bien compris. Il n'a pas renoncé, lui, du moins en apparence, Carles Puigdemont, le leader indépendantiste catalan et candidat pour diriger le futur gouvernement autonome de Catalogne. Un problème, il n'a plus de majorité avec ses alliés d'Esquerra en pleine perte de vitesse. Ce sont les socialistes du chef du gouvernement à Madrid, Pedro Sanchez, qui réalisent la belle opération de la soirée. Les images commentées par Anna Pereira et Léo Pécha.
Son parti est touché, mais résiste. Le bloc indépendantiste, dont Carles Puigdemont est la principale figure, a perdu la majorité au Parlement régional. Une première depuis une décennie. Son leader n'a pas l'intention de jeter l'éponge pour autant et a annoncé ce lundi son souhait de diriger un gouvernement minoritaire en Catalogne.
Nous pensons qu'il existe des options pour pouvoir aller à l'investiture. Et par conséquent, j'annonce mon intention de présenter ma candidature à la présidence de la Generalitat. Si nous devions former un gouvernement de cohérence souverainiste, entre 55 et 59 votes sont potentiellement possibles.
Avec une quarantaine de sièges, c'est le Parti socialiste qui arrive en tête pour la première fois depuis 45 ans. Mais son dirigeant, Salvador Illa, n'obtient pas non plus la majorité. Ce qui ouvre la voie à des partenaires, notamment parmi les indépendantistes. Selon les analystes, l'hypothèse la plus crédible serait un rapprochement avec le parti de la gauche républicaine ERC, les plus modérés du bloc.
Quelle que soit leur opinion, leur origine, leur lieu de résidence et la langue qu'ils parlent, personne, aucun catalan, aucune catalane ne sera exclu de cette nouvelle page que nous écrivons aujourd'hui.
Une telle configuration serait une victoire pour le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez. Il a fait de ce scrutin un enjeu central de son mandat. Son objectif, apaiser le climat en Catalogne après plusieurs années de crise politique. En novembre 2023, il a notamment négocié une loi d'amnistie. Elle vise à annuler les poursuites et condamnations à l'encontre des dirigeants indépendantistes catalans après leur tentative de sécession en octobre 2017.
Richard, le risque existentiel que pose la menace russe aux portes de l'Europe impose le réveil des nations face aux particularismes régionaux. C'est ça le message de ces élections hier?
Oui, moi je pense qu'il y a de ça, c'est-à-dire que le sens de l'indépendance, du combat indépendantiste dans une région comme la Catalogne, alors que c'est la stabilité entière de l'Europe qui est menacée, eh bien, ça change la donne.
Oui.
Et effectivement, les indépendantistes, aujourd'hui, malgré les propos de Carles Puigdemont, qui, rappelons-le, réside en France, puisqu'il opère depuis la France, il est toujours poursuivi pour terrorisme, de la même manière que la secrétaire générale de Esquerra Republicana, qui est l'autre parti indépendantiste qui, elle, se trouve à Genève, eh bien, malgré leurs déclarations, la réalité, c'est que c'est une vraie défaite. Et c'est une défaite double. D'abord, c'est la défaite de leur gouvernement, parce qu'ils étaient ensemble au pouvoir jusqu'à ces élections anticipées, les deux partis indépendantistes catalans, mais ils n'ont pas réussi à gouverner, ils ont fini par se séparer, puisque Esquerra, qui était au pouvoir, n'a pas pu faire voter le budget. Donc déjà, échec gouvernemental, et maintenant, échec électoral. Et vous avez un Premier ministre, Pedro Sanchez, qui effectivement a mené cette politique d'apaisement, tout à fait habile, qui lui a beaucoup coûté en Espagne également. Vox, le parti d'extrême droite, a monté. Il a monté également en Catalogne. Mais je pense que là, ça va être compliqué pour les indépendantistes. Alors, toute la question est maintenant de savoir, dans ce camp-là, celui qui veut l'indépendance, soit il tente de forcer la porte, comme le suggère Puigdemont, en restant unis au nom de l'indépendance,
mais gouvernement... Alors, l'idée indépendantiste est en perte de vitesse.
Ouais. Voilà. Ou alors, une partie des indépendantistes essaye de travailler avec les socialistes de Pedro Sanchez. Ça voudrait donc dire qu'on met quand même, je dirais, un petit peu de... On atténue la cause indépendantiste et on revient plus à de l'autonomisme ou à du régionalisme.
Et donc du réalisme imposé d'une certaine manière par la crise.
Du réalisme, mais il n'est pas... Richard l'a bien expliqué, mais que ce soit du côté donc, de Carlos Puigdemont ou... du côté du socialiste qui a gagné, il n'est pas dit pour l'instant que l'un, soit l'autre vont réussir à former des majorités, puisque la majorité est à 68 sièges. Là, les socialistes sont à 42.
Et la droite est montée en Catalogne.
Et la droite est montée.
On parle de deux camps. Voilà.
Mais est loin quand même de la majorité. Elle a toujours dit qu'elle ne gouvernerait pas avec l'extrême droite. Donc tout ça est très compliqué. Donc il y a un risque que s'ils n'arrivent pas à trouver un compromis, soit autour des socialistes, soit autour des indépendants, eh bien les électeurs soient appelés à un nouveau scrutin au mois d'octobre. Mais moi, je suis assez d'accord avec l'analyse de Richard. On peut dire que l'indépendantisme, quand même, il y a laissé... Où il y a un peu de plomb dans l'aile. Effectivement, on n'est plus sur une idée d'autonomie, de régionalisme, qui a d'ailleurs progressé au sein même de l'électorat catalan.
On est quand même dans un moment où on parle tous les jours de défense nationale contre la Russie, de Europe puissante et souveraine face à ces géants qui la menacent, et notamment face à Vladimir Poutine. Donc, les électeurs catalans, aussi indépendantistes soient-ils, ils ont bien conscience que la Catalogne, c'est petit, 5 millions d'électeurs, 8 millions d'habitants. Si vous voulez vous défendre, il vaut mieux quand même être plus grand. L'Espagne est peut-être le bon cadre pour ça.
une Espagne qui n'a pas subi autant que d'autres nations européennes aussi les effets de la montée des coûts de l'énergie. Est-ce que ça, malgré tout, ça joue pas en faveur de Pedro Sanchez et de son gouvernement en Espagne?
Oui, l'Espagne a bénéficié avec le Portugal de cette dérogation gazière. Vous savez, ils ont pu, contrairement aux autres pays européens, ils ont obtenu de décorréler les prix de l'énergie du prix du gaz. Par ailleurs, l'Espagne importe beaucoup de GNL, de gaz liquéfié, notamment des États-Unis. Sans doute, ça a joué. Mais il y a aussi, disons-le, la vista personnelle de Pedro Sanchez. Alors, on peut regretter qu'il ne soit pas davantage présent en Europe en ce moment de campagne européenne, parce que la gauche aurait bien besoin de lui, mais au niveau espagnol, il a montré sa capacité à se faufiler dans un labyrinthe difficile, mais pour l'instant, il a trouvé la sortie.
Oui, une particularité ibérique, puisqu'en Portugal, il n'y a pas si longtemps aussi, était sous gouvernance de la gauche, qui fait un peu exception aujourd'hui en Europe, il faut bien le dire, Bruno, face à la vague qui s'annonce aux européennes.
Un peu exception, oui. Alors pour les élections européennes, oui, vous avez raison. Après, bon, alors vous me direz, le Royaume-Uni ne fait plus partie de l'Union européenne, mais les prochaines élections générales semblent plutôt indiquer une victoire du Labour, du Parti travailliste aux prochaines élections.
Et vous avez le chancelier allemand Scholz, social-démocrate, mais en termes de charisme, sans vouloir être tout à fait anti-allemand, je dirais qu'entre Sanchez et Scholz, il y a quand même une petite différence.
C'est vrai. Et puis la dynamique électorale n'est pas de son côté si l'on en croit les élections dans les Länder.
Absolument. Et ce qui est intéressant au niveau de la Catalogne, juste un point, c'est que non seulement l'électoral la donne à bouger, mais encore une fois, le parti de Puigdemont, pour l'instant, il n'est plus considéré comme capable de gouverner le pays par une majorité. Il paye toujours le prix de ce référendum d'octobre 2017.
C'est un homme clandestin.
Qui lui a valu toutes les poursuites qu'on connaît et qui n'est pas passé pour un certain nombre d'électeurs.
Merci beaucoup, Richard Verli, Bruno Daroux. On va plus loin, c'est terminé. Prochain journal dans 4 minutes.